Bonjour à tous. Tout d'abord, je ne suis ni conférencier, ni historien. J'essaye moi aussi de transmettre. Et donc, je vous demande parfois si les choses ne sont pas exactement comme il faudrait d'être sympa. La deuxième chose en préalable, je voudrais vous dire que moi, j'ai souhaité vous faire partager un certain nombre de documents que j'ai réussi à trouver, que l'on m'a aidé à trouver, même si certains ne sont pas parfaitement lisibles, car c'est vrai que des archives qui remontent à 75 ans, parfois ne sont pas comme si elles étaient écrites aujourd'hui. Donc je vous les expliciterai si certaines ne sont pas lisibles. Voilà. Moi, je ne suis là que parce que je suis effectivement un enfant caché et que M. Julien Boucher a bien voulu me demander de témoigner puisque nous étions cachés un peu comme Anne Frank pendant près de 2 ans sans sortir, si ce n'est avec la chance d'avoir un petit jardin à l'arrière qui nous a permis de, et je pense surtout à mes parents, de prendre l'air. Voilà. Moi, j'étais bien jeune puisque je suis né en avril 1941, je ne vous dirai pas mon âge, et que nous sommes restés cachés du 20 mars 1943 au 13 décembre 1944. Comment est-ce que je peux connaître ces dates? Eh bien, c'est très simple. À la mort de mes parents, peu de temps après, j'ai découvert un certain nombre de documents et certains documents que j'ignorais totalement, puisque mes parents sont restés dans un mutisme total sur cette période. Et donc, j'ai essayé de les déchiffrer, de les comprendre, puis je les ai complétés avec d'autres archives. Donc, je vais vous les faire partager, parce que peut-être qu'il y a des habitués des archives, mais moi qui étais tout à fait ignorant de toutes ces choses-là, j'ai trouvé cela tellement... tellement incroyable que j'ai voulu vous les faire partager. Voilà. Donc, le premier document, déclaration de changement de domicile. Pourquoi ? En effet, la loi du 10 août 1940, dans la loi du 10 août 1942, il était rappelé « Les étrangers, et plus particulièrement ceux de confession israélite, ne doivent pas se déplacer hors du périmètre dit de libre circulation ». C'est-à-dire hors de la commune de leur résidence ou des communes limitrophes. Ceux qui sont dans la nécessité de se déplacer doivent solliciter un ordre de déplacement auprès de la police ou de la gendarmerie. C'est pourquoi mes parents s'étaient munis de ces fausses déclarations de changement de domicile au nom de Bueno pour aller de Clermont-Ferrand à Cadouin en Dordogne. Et la date de décembre, pardon, vous la voyez en bas à droite, c'est comme cela que j'ai pu savoir que nous étions restés à Cadouin entre le mois de mars 42 et le mois de décembre 43. Mais partons du début. Mes parents, Sima Lesnik et Ersi Shmuel Feldman, sont nés en Pologne respectivement en 1904 et 1912, et ont fait partie de la vague d'émigration du début du XXe siècle en raison de l'antisémitisme polonais. Mon prédécesseur n'a pas voulu parler d'autre chose que de la brigade qui a combattu en France et qui était polonaise. Moi, je peux donner d'autres qualificatifs. Ma mère est arrivée en 1922 à Paris. La date indiquée en première page de son passeport polonais le précise. C'est la seule photo de ma mère que j'ai, en tous les cas, jusqu'à son âge de 35 ou 40 ans. Et mon père, en 1932, comme indiqué sur une des nombreuses listes qui répertoriaient les Juifs. Si vous regardez bien, j'ai surligné parfois, quand ce n'était pas très lisible, l'endroit où on le trouve. Et donc, vous voyez 1932. C'est grâce à ce document que j'ai appris la date d'entrée en France de mes parents, de mon père en tous les cas aussi. Ma mère avait eu un premier garçon, Max, né en 1925, dont le père, Maurice Zwang, ne vécut que quelques années avec elle. Nous reparlerons de mon demi-frère Max à la fin de mon témoignage. Puis elle rencontra Samuel Feldman, avec qui elle eut un premier garçon, Joseph, en 1935. Ils vécurent décemment à Paris, dans un petit appartement, 76 rue de Ménilmontant, travaillant tous les deux dans des ateliers de confection. C'est aussi la seule photo des deux dont je dispose. Peut-être un petit mot sur la vie des familles juives immigrées à cette époque. Comme mes parents, nombreux étaient les juifs immigrés d'Europe centrale qui vivaient à Paris, ne parlant pas ou mal le français, mais s'exprimant en yiddish. En quittant la Pologne antisémite, ils avaient décidé pour la plupart non seulement qu'ils n'y retourneraient plus, ce pourquoi ma mère avait déchiré son passeport pour ne conserver que la première page avec sa photo, mais également qu'ils ne parleraient plus le polonais, ce que mes parents ont respecté. Ils étaient nombreux à travailler dans des ateliers de confection, où mes parents se sont rencontrés, ou dans des ateliers de maroquinerie. Payés le plus souvent à la pièce, ils devaient travailler 10 ou 12 heures par jour pour gagner leur vie. Ils se retrouvaient dans les très nombreuses associations juives, sportives, culturelles, et formaient, il est vrai, une communauté très soudée. Nombreux, enfin, étaient ceux qui avaient une réelle conscience politique, majoritairement de gauche, et militaient soit à l'Union Générale des Travailleurs Juifs, le Bund, soit au Parti communiste. Mes parents, eux, militaient à l'UJRE, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, proche du Parti communiste, et lisaient la Presse Nouvelle, le quotidien en yiddish. Ils formaient une classe, si ce n'est pauvre, du moins très modeste, mais ils ne se plaignaient pas. D'ailleurs, ma mère m'a souvent répété, « François, quoi qu'il arrive, ne te plains pas, ça pourrait être pire. » Toute une philosophie héritée de ce qu'elle avait vécu précédemment en Pologne avec les nombreux pogroms. Le frère de ma mère, Jean Lesnik, né en 1902, est arrivé en France peu de temps avant elle. Il était tailleur sur mesure et tenait un petit magasin, boulevard Magenta. Prémonition ou réelle conscience politique, il décida début 1939 de quitter Paris pour s'installer avec sa femme et ses deux filles à Clermont-Ferrand, où il ouvrit un petit magasin de confection, 19 rue Grégoire de Tours. Il invita mes parents et mon frère Joseph à passer des vacances avec eux en août 1939 et les accueillit chez lui. À nouveau prémonition, mon oncle Jean leur recommanda de ne pas retourner à Paris, comme je l'ai entendu tout à l'heure, d'abandonner le peu dont ils disposaient dans leur appartement rue de Ménilmontant et de rester travailler avec lui à Clermont-Ferrand, ce qu'ils firent. Et bien leur en apprit. Mon père s'établit alors comme ouvrier à domicile, 12 rue des Chaussetiers. Aidé de ma mère couturière, il allait chercher des morceaux de pantalons et de vestes, préparés par des donneurs d'ordre, les assembler, puis les livrer à qui de droit. C'est ainsi qu'ils vécurent là encore décemment quelques années. Comme ils étaient payés aux pièces, ils devaient travailler là encore 10, 12, 14 heures par jour pour gagner leur vie, mais ils m'ont toujours dit qu'ils avaient l'impression d'être libres, puisqu'aucun patron ne les surveillait, comme dans les ateliers de confection à Paris, et ils pouvaient éventuellement s'absenter une demi-journée ou une journée entière sans que personne n'y trouve à redire. Alors, ouvriers à domicile, ensemble, c'était formidable. C'est à cette époque que je suis né, le 14 avril 1941. Ma mère m'a souvent dit, tu sais François, tu n'étais pas le bienvenu, mais par la suite tu as été mon rayon de soleil. La venue d'un enfant juif en avril 1941 ne devait effectivement pas réjouir ses parents, compte tenu de la situation. Rappelons-nous que la première ordonnance relative aux mesures contre les juifs est prise dès le 27 septembre 1940. Les autres vont se succéder à un rythme effréné, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, rendant la vie des Juifs impossible. Rappelons-nous également que le commissariat général aux questions juives est créé le 29 mars 1941 et que la première rafle a lieu en zone occupée dès le 14 mai 1941, un mois seulement après ma naissance. Deux autres rafles suivront en août et décembre 1941. Si des juifs sont internés, ce sera d'abord dans des camps en France, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Compiègne, Drancy, etc. En effet, jusqu'à la fin 1941, il n'était pas question de déportation ni d'extermination, mais simplement d'aryanisation. Il s'agissait d'écarter les juifs de la vie économique et de s'approprier tous leurs biens en attendant de trouver un moyen de s'en débarrasser, d'une manière ou d'une autre. Ce moyen ne va d'ailleurs pas tarder, puisque le 20 janvier 1942 se tient secrètement dans la banlieue de Berlin la fameuse conférence de Wannsee à laquelle assisteront pratiquement tous les hauts dignitaires nazis, à l'exception d'Hitler. C'est au cours de cette conférence que sera annoncée par Reinhard Heydrich la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des 11 millions de juifs d'Europe qu'ils avaient recensés pays par pays, comme vous pouvez le voir sur le document officiel présenté ce jour-là. Deux mois plus tard, partait le premier convoi français en direction des camps d'extermination le 27 mars 1942. Monsieur Julien Boucher, qui a souhaité que je témoigne aujourd'hui, m'avait précisé que ce colloque aborderait également la question de la mémoire. La mémoire peut s'appuyer sur des faits vus, entendus, vécus, ou sur des faits racontés. En ce qui me concerne, ce ne sera évidemment pas des faits vécus, car j'étais beaucoup trop jeune. Je fais partie des enfants dont les parents se sont réfugiés dans un mutisme absolu sur la période douloureuse qu'ils ont vécue pendant la dernière guerre. Je fais partie des nombreux enfants qui n'ont pas assez posé de questions et qui n'ont pas assez insisté pour savoir précisément ce que leurs parents avaient, eux, vu, entendu, vécu. Ce dont je vais vous parler est donc le fruit de longues recherches lorsqu'après le décès de mes parents à la fin des années 80, j'ai découvert un dossier contenant toute la collection des faux papiers qu'ils avaient utilisés pour survivre. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur une petite partie de cette inestimable collection de faux papiers. Tout d'abord, les premières fausses cartes d'identité de mes parents au nom de Leclerc André et Leclerc né Lefebvre, Simone, habitant 12 rue des Chaussetiers à Clermont-Ferrand, mais vite abandonnée car leur fort accent les aurait immédiatement trahis. Les nouvelles fausses cartes d'identité au nom de Bueno Raim, mauvais prénom, et Luxac Maria, épouse Bueno, mon père étant supposé être né à Smyrne en Turquie et ma mère étant supposée être une fervente catholique polonaise. Un faux livret de famille, établi tout près, à Choria, qui justifiait la présence de mon frère Joseph, né effectivement le 30 octobre 1935, et de moi-même, né en 1941. Plus rare, un faux certificat de démobilisation au nom de Bueno, mon père étant supposé avoir été appelé sous les drapeaux le 10 septembre 1939, avoir été affecté à Chalon-sur-Saône comme cuisinier et démobilisé à Clermont-Ferrand le 19 juillet 1940. N'oublions pas que le maréchal Pétain, grand soldat, voulait dans un premier temps épargner les étrangers et les juifs ayant servi sous le drapeau. Et enfin, un dernier document que je vous montre, qui est simplement un laissez-passer émis par le bureau de garnison de des FFI de Bergerac avant notre retour. Je vous épargne les fausses cartes d'assurance sociale, de travail, tu vois, j'ai pas tout mis, d'alimentation, ainsi que d'autres documents, tous au nom de Bueno. Et c'est cette collection que le mémorial de la Shoah souhaitait conserver, que je leur ai remis. Et j'ai eu plaisir également de les remettre aux archives départementales du Puy-de-Dôme. Quel souvenir, quelle mémoire, quel souvenir de cette période pouvait avoir l'enfant de 4 ans que j'étais à la fin de la guerre ? Pratiquement aucun. Mais j'ai toujours gardé en mémoire dans ma tête la seule phrase que ma mère m'a répétée à plusieurs reprises par la suite. « François, tu as eu beaucoup de chance. Pendant que nous étions cachés à Cadouin, tu n'as jamais manqué de lait. » Par ailleurs, j'avais conservé dans ma tête deux images de cette période. Un beau jardin, bien carré, bien entretenu, bien vert. Et au contraire, un autre tout petit jardin, pratiquement laissé à l'abandon, avec au fond de ce jardin, une porte avec un petit cœur, comme on pouvait en trouver un peu partout, la porte de la cabane des toilettes. Dans les années 90, ma femme et moi avons décidé de nous rendre à Cadouin en Dordogne. Ce village comporte une magnifique abbaye, datant du XIIe siècle, Notre-Dame de la Nativité, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un cloître du XVe siècle, en gothique flamboyant, jouxte l'abbaye. Nous visitons l'abbaye, puis le cloître, et là, ô surprise, le magnifique déambulatoire que nous empruntons entoure un jardin bien carré, bien entretenu, bien vert, précisément celui que j'avais gardé dans ma mémoire d'enfant. Après quelques instants de trouble, je décide d'en savoir plus. Je sors, nous sortons. Je vais à l'office de tourisme qui se trouvait juste en face de la place et je demande à la personne qui était là, mais est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui aurait été présent pendant la guerre et qui serait encore vivant? Et la personne fait, ben oui, bien sûr, je connais très bien Madame Roquejoffre, qui doit avoir 85 ou 86 ans. Elle habite à 100 mètres là, juste dans la rue principale, juste en face de la petite porte de l'abbaye. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous verrez, elle a une vierge au-dessus de sa porte. Nous nous dirigeons vers cette maison, nous passons devant la fenêtre qui est ouverte sur la rue, ce qui nous permet de distinguer une vieille dame assise sur un fauteuil en osier et une autre plus jeune assise en face d'elle. Nous frappons à la porte. La plus jeune femme arrive en claudiquant et nous ouvre la porte. Je lui explique que nous sommes à Cadouin pour essayer de retrouver l'endroit où se cachait une famille juive pendant la guerre. Et on nous a dit que Madame Roquejoffre habitait ici pendant cette période. J'aimerais lui poser quelques questions. Nous devions être sympathiques puisque elle nous ouvre, elle nous fait entrer en nous disant « c'est ma mère ». Elle habitait effectivement ici pendant cette période. Si vous voulez lui poser des questions, mettez-vous bien en face d'elle parce qu'elle est sourde. Donc, je me mets en face d'elle et je lui pose la question et je lui dis, vous savez, on nous a dit que vous étiez là pendant la guerre et nous, nous sommes là comme en pèlerinage parce que ma famille... Mon frère, mes parents et moi étions cachés à Cadouin et j'essaye de retrouver l'endroit où nous étions cachés. Est-ce que vous auriez entendu parler d'une famille juive cachée à Cadouin pendant les guerres? Et cette dame avec des yeux, je l'ai déjà dit, mais qui me faisait penser à ceux de ma mère, perçant et magnifique, me fait « Vous vous appelez comment ?» Et là, après quelques instants, je lui fais François Feldman. Et là, elle me fait « Mais tu es mon petit François ?» Et je peux vous dire que le parquet, il a été mouillé. Effectivement, Madame Roquejoffre, que j'appellerai dorénavant Maman Léa, me conte ce que mes parents ne m'avaient jamais dit. La mère supérieure du cloître, appelée alors le couvent, sœur Louise Granier, et son assistante de nationalité britannique, sœur Agnès Cléard, avait accepté de vous cacher à la demande d'un réseau de résistance, C'est ainsi que vous avez occupé les deux pièces au premier étage donnant sur le jardin à l'arrière de la petite maison, propriété du couvent et mitoyenne de la nôtre. Comme j'étais la cuisinière du couvent, je vous apportais discrètement à manger tous les jours. Cela était facilité par le fait que nous communiquions avec tes parents par l'arrière, par les jardins mitoyens à l'abri des regards. De temps en temps, ta maman me passait le bébé que tu étais encore pour que je lui donne du lait. Et c'est alors qu'elle me sort presque textuellement la phrase de ma mère, gravée dans ma mémoire. Et tu sais, François, tu as eu beaucoup de chance, car mon mari travaillait dans une ferme et ramenait du lait pour toi tous les jours. Viens, je vais te montrer par où nous communiquions avec tes parents. Nous montons un petit escalier de pierre et arrivons dans un tout petit jardin, mal entretenu, au fond duquel se trouvait une cabane avec une porte et un petit cœur. Je n'en revenais pas, tout cela ressemblait à un rêve. Le même jour, la phrase, les deux images conservées sans explication dans ma mémoire depuis des dizaines d'années devenaient une réalité et prenaient tout leur sens. Du jardin de maman Léa, je voyais la maison mitoyenne, le jardin mitoyen et les deux fenêtres des chambres que nous avions occupées du 20 mars 43 au 12 décembre 44. Merci. Excusez-moi. C'est un peu le... Mais nous n'avons pas pu les visiter ce jour-là, les propriétaires étant de vieilles personnes qui refusèrent obstinément de nous laisser entrer. Ce n'est qu'à leur décès, quelques années plus tard, que j'ai pu visiter ces deux chambres, dont les papiers peints auraient pu être ceux des années 40. Je vous laisse imaginer ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Maman Léa nous a raconté un certain nombre de faits, d'anecdotes qui seraient trop longs de relater aujourd'hui, si ce n'est qu'il arrivait à mon père de sortir la nuit pour accompagner le seul résistant communiste de Cadouin qu'était M. Roquechoff pour la récupération de ce qui était largué lors des parachutages. Nous avons régulièrement rendu visite à maman Léa jusqu'à son décès le 31 juillet 2008 et nous continuons à faire le même trajet pour voir sa fille Annie de quelques années plus âgée que moi. J'ai toujours pensé que les ennuis de la famille Feldman n'avaient réellement débuté qu'à partir de 1943, puisque nous avons été exfiltrés à Cadouin le 20 mars de cette année-là. Je dis exfiltrés, car ce ne sont pas mes parents qui, de Clermont-Ferrand, ont pu trouver une cache à 300 km dans un petit village de Dordogne nommé Cadouin, qui plus est dans une maison appartenant à des sœurs. Jusqu'à ce jour... Et compte tenu du mutisme de mes parents, je n'ai jamais réussi à savoir quel réseau de résistance auquel mes parents appartenaient nous avait sauvés. Et pourtant, depuis que toutes les archives de la période 39-45 ont été officiellement ouvertes au public en décembre 2016, je ne me trompe pas, 2015. Eh bien voilà, je m'étais trompé. J'ai cherché à en savoir plus sur le sort de ma famille. J'avais remis une copie de tous mes faux papiers au mémorial de la Shoah lors de la collecte effectuée à Clermont-Ferrand et je les ai également confiés aux archives départementales du Puy-de-Dôme. C'est à cette occasion que j'ai fait connaissance de M. Julien Boucher et Mme Marie-Laure Bertolino, chargée de valorisation des collections à ces mêmes archives. C'est eux, et je les remercie grandement, qui m'ont permis de retrouver un bon nombre de documents concernant ma famille, lesquels vont me permettre d'illustrer ce à quoi ont été confrontés mes parents en particulier et les Juifs d'origine étrangère qui habitaient en zone dite libre d'une manière générale. Rappelons que le 2 juin 1941 est promulguée une loi prescrivant le recensement des Juifs dans le délai d'un mois. Cette loi sera complétée par les directives du 29 juillet 41 à destination des préfets de la zone libre, concernant également le recensement des Juifs. Mes parents, comme l'immense majorité des Juifs, se sont effectivement fait recenser, mais à deux adresses différentes. 12 rue des Chaussetiers pour mon père, adresse de son atelier, 19 rue Grégoire de Tours pour ma mère, adresse de l'atelier de son frère Jean. C'est pas très lisible, mais ce sont les documents officiels écrits de la main d'un employé de la préfecture de Clermont-Ferrand. Et on voit effectivement ce que j'ai entouré, l'ethnic Sima, donc né à La Pianca et habitant rue Grégoire de Tours. Et mon père, donc né à Scarisco, rue des Chaussetiers. Était-ce pour éviter d'être arrêtés tous deux en même temps? Je ne le saurai jamais. Par parenthèse, mon oncle Jean ne figure sur aucune des listes que j'ai retrouvées, ce qui signifierait qu'il ne s'était jamais fait recenser. Le 20 mai 1942, l'amiral Platon, le vice-amiral Platon, secrétaire d'État près le chef du gouvernement, transmet au secrétariat général pour la police une instruction d'expulsion des Israélites de la région administrative de Clermont-Ferrand, et ce dans un délai de 15 jours, sauf demande de dérogation, à lui adresser personnellement. Ce sera le début des rafles, appelées « ramassage des Juifs » en zone sud. C'était en fait le résultat du marchandage de Pétain et Laval qui, pour épargner momentanément les Français d'origine juive en zone nord occupée, avait promis de livrer aux Allemands 20 000 Juifs étrangers de la zone sud. Ils en livreront en fait 10 000. Mes parents devaient faire partie du lot, mais avec l'aide de Madame Bertolino, j'ai retrouvé un dossier exceptionnel qui comporte un courrier daté du 6 juin 1942, 16 jours après l'instruction du vice-amiral Platon, que mon père est censé avoir écrit au ministre par lequel il demande une mesure de dérogation à cette expulsion en raison de la maladie de cœur de sa femme. Je dis « est censé » car mes parents ne savaient ni lire ni écrire, ils ne sont jamais allés à l'école. Par contre, c'est bien mon père qui a recopié les mots que quelqu'un a dû écrire pour lui. Une fiche individuelle qui était réclamée, fiche individuelle d'israélite dont on parlait tout à l'heure, pour mon père et une pour ma mère, donc qui devait être joint, une pour l'un, une pour l'autre. Un certificat médical daté également du 6 juin 1942, rédigé par le docteur Roger Fournier, qui atteste que ma mère, atteinte d'une maladie de cœur, est intransportable et nécessite la présence permanente de mon père. Une attestation du magasin aux villes du centre, datée encore du 6 juin 1942, certifiant que mon père travaille chez eux depuis 3 ans et qu'ils peuvent continuer à lui donner un travail régulier. Pourquoi cela? Parce que, ça a été dit tout à l'heure, il fallait pour qu'un juif puisse rester, qu'il prouve qu'il travaille et qu'il est capable de se nourrir par son travail. Et d'ailleurs, sur le petit, j'ai oublié de vous le dire, mais sur ce que mon père a signé, il est marqué de sa main qu'en fait, il est en mesure, il a meublé lui-même son appartement et il est capable de subvenir à ce dont il a besoin pour vivre. Voilà. Et enfin, un nouveau certificat médical, un mois plus tard, daté du 18 juillet 1942, rédigé par le professeur Camille Bernard Griffiths, précisant cette fois que ma mère sera intransportable pendant 6 mois. J'ai retrouvé le compte-rendu peu lisible de la commission médicale qui a siégé par la suite et qui indique que Feldman Hersi bénéficie, ça c'est la commission médicale, Feldman Hersi bénéficie effectivement d'un sursis de 6 mois, comme l'avait prescrit le docteur Camille Griffiths. Vous remarquerez que tous les autres qui sont passés à la commission médicale, il y en a un bon nombre où c'est marqué « expulsé ». Ce sont ces faux certificats qui nous ont certainement sauvés. Et je voudrais témoigner que si les 3/4 des Juifs de France ont été épargnés, cela est dû effectivement à l'immense chaîne de solidarité qui s'est développée dans toute la France, déjà lorsque les Juifs ont dû arborer l'étoile jaune en zone nord, comme prescrit par la 8e ordonnance concernant les mesures contre les Juifs du 29 mai 1942, mais surtout à partir du mois de juillet 1942, lorsque les rafles n'ont plus épargné les enfants. Rappelons-nous que la rafle du Veldiv a eu lieu les 16 et 17 juillet et que le premier convoi comportant des enfants de moins de 15 ans part le 14 août 1942. Font partie de cette immense chaîne de solidarité qu'attestent les 4100 justes parmi les nations, les innombrables médecins qui, pour sauver les Juifs, rédigèrent de faux certificats médicaux tout en connaissant les conséquences de leurs actes. Indépendamment des docteurs Fournier et Bernard Griffiths qui nous ont sauvés, laissez-moi vous donner encore l'exemple du docteur François de Clermont-Ferrand qui, vu l'urgence, a établi 5 certificats médicaux le 2 mars 1943 au nom de 5 juifs différents. Le certificat médical du docteur Camille Bernard Griffiths, daté du 18 juillet 1942, a donné 6 mois de répit à mes parents, donc jusqu'en janvier 1943. Répit qu'ils ont mis à profit pour préparer leur fuite. C'est du moins ce que je peux supposer de par la chronologie des événements. Par contre, la police française faisait bien son travail, puisque dès le 27 février 1943, 4 semaines plus tard, une fiche de police prouve que mon père était à nouveau recherché. Elle stipule, parce que ce n'était pas très lisible, « Le sieur Feldman Hercy a quitté Clermont-Ferrand depuis 2 mois environ. Toutefois, des renseignements recueillis auprès de Madame Desesclades, épicière dans la rue Susindiqué, que j'ai bien connue après la guerre. Il résulte que l'étranger recherché revient quelquefois à son domicile, une fois tous les 10 jours environ, sans avoir de jour défini. Son nom figure d'ailleurs sur la liste des Israélites à ramasser, datée du même jour, 27 février 1943. Je ne sais pas si j'ai l'âge. Voilà. Donc vous voyez que c'est toujours « ramassage des Israélites » et en bas c'est marqué « ramassage des Israélites du 27 février 1943 ». Ça veut dire que le même jour, il y a la liste des Juifs à ramasser et déjà un policier qui vient rue des Chaussetiers pour ramasser mon père qu'il ne trouve pas. Son nom, 3 semaines plus tard exactement, le 20 mars, nous partions nous cacher à Cadouin. Et heureusement, car le 24 mars, le préfet du Puy-de-Dôme communiquait à la direction générale de la police une nouvelle liste de Juifs à rapatrier, dont Feldman Hercy. On peut dire que nous l'avons échappé belle. Je voudrais pour terminer dire quelques mots de mon demi-frère Max Zwang, que je vous ai présenté au début de mon témoignage. En effet, cela me permettra de parler de l'engagement des jeunes juifs dans la résistance. En mars 1943, Max avait un peu plus de 17 ans et il a choisi non pas de se cacher avec nous à Cadouin, mais d'entrer dans la résistance. De Clermont-Ferrand, il est parti à Lyon pour rejoindre les premiers résistants FTP-MOI, francs-tireurs, partisans de la main-d'œuvre immigrée du réseau Carmagnol Liberté. Son matricule était 94-010, ce qui signifie qu'il était le 10e inscrit à Lyon. Le groupe Manouchian, bien connu, avec la fiche rouge, faisait également partie des FTP-MOI, mais de la région parisienne. Je voudrais rappeler ici que pour les FTP-MOI, aucun Allemand ne devait se sentir en sécurité sur le sol français. Cela signifiait qu'entre autres, il devait tuer des militaires allemands, officiers si possible, mais avec une obligation, pas de victimes françaises collatérales, ce qui supposait de les tuer à bout portant. Mon frère Max m'a expliqué qu'une opération impliquait 3 membres du groupe et qu'un 4e était chargé de planquer leur carte d'identité au cas où ils se feraient prendre. Avant une opération qui devait avoir lieu le 29 mai 1943, date que j'ai trouvée, vous verrez où, et qui consistait à attaquer un bureau pour voler des cartes d'alimentation, il fallait bien subvenir un peu à sa nourriture, Max et ses 2 copains ont confié leurs cartes comme prévu au 4e qui s'appelait Simon Fried, lequel les a mis dans sa cache. Fiévreux, Max demande la veille à Simon Fried de le remplacer le lendemain car il ne se sent pas en condition au cas où il devrait courir, ce que Simon accepte. Malheureusement, Le lendemain, l'opération tourne mal. Les trois résistants sont arrêtés. Sous la torture, Simon Fried donne l'adresse de sa cache où se trouvaient les quatre cartes d'identité. Les policiers français se rendent à cette adresse et trouvent les quatre cartes d'identité. Trois résistants étant en prison, le quatrième, Max, en fuite, fait l'objet d'un mandat d'arrêt daté du 8 juin 1943. La section spéciale de la Cour d'appel de Lyon, où ne siégeaient que des juges français, dont un certain Faure Pingelli, se réunit le 24 novembre 1943. Elle condamne à mort Simon Fried, qui sera décapité, et les autres aux travaux forcés à perpétuité, dont mon frère par contumace, puisqu'il n'avait pas été arrêté. La copie du jugement n'est pas très lisible, mais on distingue bien le nom de Max Zwang, de Simon Fried et des autres. Et j'ai pas pu résister quand même à vous montrer ce document. On voit, j'ai mis en rouge les deux, Simon Fried et Max Zwang, toujours ici. Et donc, ce jugement écrit à la main condamne à mort par décapitation Simon Fried et les autres à la prison en perpétuité, à perpétuité. Simon Fried, qui connaissait mal le français, a écrit quelques mots à ses sœurs avant son exécution. Mes chères sœurs, je vous écris au moment de mon exécution. Je meurs pour la cause pour laquelle j'ai combattu. Il avait 20 ans. Ne m'oubliez pas, vengez-moi. Le procès-verbal de son exécution est daté du 4 décembre 1943 et il est stipulé effectivement que les personnes qui ont signé, je ne connais pas leur nom, il n'y a que la signature, ont bien constaté qu'il avait été décapité. Max continuera dans la résistance jusqu'à la fin de la guerre au sein des FFI de Dordogne. Il sera réhabilité par la chambre de révision de la Cour d'appel de Lyon le 26 octobre 1945, étant condamné à perpétuité. Il fallait bien corriger cela. Et donc, ça, c'est le document officiel qui le réhabilite. Trois hauts magistrats des tribunaux de Pétain, appelés section spéciale, qui avaient fait décapiter des résistants, furent à leur tour condamnés à mort par les FTP-MOI et exécutés, dont Faure Pingelli, qui avait fait guillotiner Simon Fried. À noter qu'après la mort de ces trois fidèles serviteurs des nazis, il fut impossible au gouvernement de Pétain de trouver de nouveaux magistrats acceptant de jouer ce rôle. Je dis cela parce que je crois qu'il était important, parce que il y avait deux théories. Il y avait une théorie plutôt du côté de De Gaulle qui disait « Attendez qu'on arrive avant de faire trop de tueries pour éviter les représailles », alors que le Parti communiste et les FTP en particulier avaient une théorie complètement inverse. Mais vous voyez, elle a quand même bien servi, puisque par la suite, il n'y a plus eu cette section spéciale. Tout cela pour vous dire, regardez... C'est pour ça que je vous ai montré la dernière page. Tout cela pour vous dire que je ne suis jamais arrivé à comprendre pourquoi a été véhiculée cette image des Juifs qui se laissent arrêter sans résistance, qui se laissent conduire comme des moutons à l'abattoir. Effectivement, des personnes âgées ou des parents avec de jeunes enfants, qu'ils soient juifs ou non, ne sont effectivement pas entrés dans la résistance en disant à leur femme « Je m'en vais, débrouille-toi avec les gosses ». Ils ont, la plupart du temps, été arrêtés ensemble. Par contre, dès que la France a été envahie, très nombreux ont été les jeunes étrangers, les jeunes juifs qui, eux, sont entrés dans la résistance. Si je peux me permettre, ils n'ont pas attendu, par exemple, d'être appelés pour le STO en fin 1943, comme certains qui, plutôt que de partir en Allemagne, sont venus effectivement grossir tardivement les rangs de la résistance. Je ne m'étendrai pas non plus sur la résistance du ghetto de Varsovie ou les soulèvements des camps d'extermination de Treblinka et Sobibor qui ont entraîné leur fermeture par les nazis. Mais je voulais simplement et rapidement évacuer une image qui n'a que trop injustement été répandue. Je vous remercie.